Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cet épisode du podcast de l'Université de la e-santé de Castres-Mazamet. On va commencer cet épisode par une question simple. En tant que patient, sur quoi juge-t-on la qualité de la prise en charge dans un établissement de santé? Quelle est la place de l'accueil, du temps d'attente, de la fluidité du parcours entre les différents services? Finalement, de tous les critères qui forment l'expérience patient. Certains établissements ont bien compris que ces indicateurs sont aussi importants que les soins. En tout cas, c'est le cas de la clinique Pasteur à Toulouse. Elle a depuis longtemps investi le champ du numérique pour renforcer son offre de soins. Et dans cet épisode du podcast, on va s'intéresser à la manière dont elle se sert des outils numériques pour améliorer l'expérience patient. Pour en parler, le docteur Céline Auron, qui a pris la tête de la direction de la relation et de l'expérience patient dès sa création à la clinique Pasteur en 2021. Vous pourrez retrouver Céline Auron lors de la prochaine Université de la e-santé en juin à Castres. Mais en attendant, voici quelques pistes pour améliorer l'expérience patient grâce au numérique. Bonne écoute. Bonjour docteur Auron.
Bonjour.
Depuis 2021, vous êtes la directrice de l'expérience patient à la clinique Pasteur de Toulouse. Clinique Pasteur, c'est 65 000 patients par an ?
C'est 70 000 patients par an qui passent par la clinique, oui.
Ouais. Quel était le constat au moment où vous arrivez, vous prenez la direction et la direction de l'expérience patient est créée ? Le constat en termes d'expérience patient, qu'est-ce qui n'allait pas ? Qu'est-ce que vous vouliez mettre en place ?
Première chose qu'on s'est dite, c'est finalement dans toutes les sociétés qui se tiennent bien, il y a une direction commerciale et qui est représentée au plus haut dans l'organisation. Et là, on s'est dit finalement, on a un comité de direction, on a toute une gouvernance. Les patients peuvent participer, mais ils ne sont pas représentés en tant que d'une direction pour les patients. Et donc la volonté, c'était de dire on crée une direction au service des patients.
Alors il y a plusieurs manières de mettre l'accent sur l'expérience patient. Quels ont été les premiers efforts que vous avez entrepris ?
La première chose déjà, ça a été de faire un état des lieux, de dire d'où on part. C'est une clinique qui est connue pour sa bienveillance, au-delà de sa qualité des soins et de toutes les valeurs qu'elle porte. Donc il y avait déjà des choses extrêmement positives sur lesquelles on voulait capitaliser, mais on voulait aller encore plus loin. Et donc on s'est dit comment on va faire pour aller plus loin, comment on va pouvoir fluidifier les parcours, améliorer l'expérience patient et apporter des nouveaux outils, des nouvelles organisations à ce service-là pour améliorer l'expérience patient. Donc finalement, c'était notre fil conducteur pour pouvoir derrière impacter l'ensemble de notre organisation et de façon peut-être encore plus profonde que ce qu'on imaginait au début.
Alors l'expérience patient, elle commence à l'accueil et puis elle se termine à la sortie. On passe par des tas d'étapes. Est-ce qu'il y a une partie de ce parcours sur lequel vous avez voulu mettre l'accent au départ, avant qu'on parle même des outils que vous avez mis en place ?
L'expérience patient, elle démarre même avant d'arriver, avant même l'admission. Et c'est là-dessus, on a mis beaucoup d'énergie là-dessus, pas uniquement. Mais en fait, finalement, on a suivi le parcours d'un patient, ça a été notre fil conducteur. Et on s'est dit, ben voilà, je suis patient, je viens à la clinique. Quels sont mes moments où j'interagis avec la clinique et comment ces moments-là, on peut les faciliter. Et donc, la première étape pour nous, qui était une étape forte, c'était vraiment de dire, on peut travailler en amont de l'admission pour faciliter l'admission.
Alors, ça passe par quoi en amont de l'admission ?
Ça passe déjà par organiser, par exemple, nous on a mis en place un centre de contact, le fait de regrouper nos équipes pour que tout ce qui est contact téléphonique avant d'arriver soit beaucoup plus fluide. Ça a été aussi mettre des outils numériques au service des patients pour préparer les admissions. Et puis nous organiser avec différents outils, différents métiers pour pouvoir préparer cette admission à la clinique.
Vous m'avez parlé d'un portail patient, c'est ça dont on parle pour s'enregistrer à l'avance ?
Alors voilà, un des axes forts, par exemple, dans le digital, ça a été de dire si le patient peut bien préparer son admission, au moment où il arrive, il a plus de chances que ce soit plus fluide, que ce soit plus agréable, moins de chances d'être récusé parce qu'il manque des éléments, et son expérience va être enrichie. Donc on a mis en place un portail patient sur lequel le patient est invité à se connecter avant d'arriver. Il peut retrouver des vidéos ciblées sur l'intervention qu'il va subir ou sur le séjour qui va avoir lieu, des notices d'information, pas mal d'éléments pour préparer son admission. Et puis d'autres éléments plus classiques, administratifs et autres. Et c'est une interaction avec le patient. C'est-à-dire qu'il prend de l'information et il nous en donne aussi. Et comme ça, on peut préparer le séjour.
Est-ce que c'était une demande des patients que vous avez sentie justement à cette étape-là ou au contraire plutôt une demande de l'organisation de la clinique Pasteur de fluidifier cette étape-là ?
C'était un mix, c'est-à-dire en plus il y a eu des changements dans le cadre du Covid, on est passé avec beaucoup plus d'ambulatoires, donc il a fallu revoir nos organisations et évidemment s'il y a plus de monde en ambulatoire, à des moments ça peut être moins fluide. Donc c'était partant de là et même sur des hospitalisations traditionnelles où on sait avec le contexte actuel dans les établissements de santé que on fait plus attention au nombre de lits, on en a moins, donc on est obligé de s'organiser différemment et c'est vraiment pour le bien du patient et a posteriori on se dit que ça a été extrêmement positif. Mais donc le constat il partait du fait qu'il y a des gens qui arrivent dans des séjours de plus en plus courts et il faut que ce soit très bien préparé pour que ce soit agréable pour le patient mais que ce soit agréable aussi pour l'organisation. On était vraiment dans une symétrie de dire il faut que notre organisation marche bien, il faut que pour le patient ce soit agréable. Et on a travaillé sur les deux en parallèle, en mettant en place donc une organisation et des outils au service des deux, toujours en parallèle.
Sur le portail patient, quel résultat est-ce que vous avez observé ?
Bah nous, on a observé déjà que ça nous permettait de rester vraiment sur des circuits plus courts. Ça, c'est vraiment peut-être une spécificité, faire circuler et accompagner le patient dans son parcours. Par exemple, un patient qui va sur le portail, qui nous donne de l'information médicale, quand nous, on va en lien avec mon espace santé, récupérer de l'information et préparer ce séjour, injecter ces éléments dans le dossier du patient, au moment où le patient arrive et au moment où il est au bloc opératoire, toute cette information est déjà présente.
Et ça, qu'est-ce que ça procure comme avantage, au-delà de l'admission elle-même ?
Ça procure déjà d'avoir l'information en amont. Donc si, par exemple, je vais vous donner un exemple concret, au moment où on demandait à nos patients d'arriver avec une PCR pour un test Covid, bien, si le patient ne l'avait pas fourni avant, on n'était pas sûr qu'il l'aurait en arrivant. Donc ce n'était pas logique de le faire passer en premier, parce que ça risquait de bloquer et de ne pas permettre au bloc de fonctionner comme il fallait. Donc finalement, identifier en amont les patients permet à l'accueil d'être vraiment ciblé et d'avoir quelque chose de très fluide. Pareil, des patients qui ont un besoin spécifique et qu'on va pouvoir identifier avant, on va pouvoir les accueillir ou leur donner la bonne chambre par rapport à leurs besoins.
Donc il y a une fluidification des opérations, de l'expérience patient, du ressenti patient, mais également une cascade en fait sur le reste des soins que vous apportez aux patients.
En fait, c'est doublement bénéfique, c'est-à-dire que oui, ça fait une meilleure expérience patient, ça marche mieux sur les soins, mais en même temps que ça marche mieux sur le soin, ça marche mieux sur le patient. Je veux dire par là que si c'est plus fluide, le patient attend moins. Si quand il arrive, le patient n'est pas récusé parce qu'il n'y avait pas la bonne biologie et qu'on sait qu'on ne pourra pas le prendre, ben, il n'aura pas à attendre pour rien. Donc finalement, ça impacte en parallèle les deux. Et c'est ça que je trouve assez extraordinaire, c'est de se dire que quand on part de l'expérience patient et qu'on y adosse des outils, bon, nous, on est très, très digital, qu'on y adosse des outils pertinents, à ce moment-là, on est dans une expérience qui est plus positive pour tous.
Et le choix du digital, c'est un choix conscient. Vous dites qu'on est très digital. Vous auriez pu commencer par installer une cafette, installer des choses qui ne sont pas nécessairement dans le digital.
Alors, on a voulu faire les deux en même temps. D'abord, l'histoire de la clinique, ça a été d'être engagé dans le numérique en santé de longue date, hein, avec beaucoup d'outils internes, d'outils tous interopérés. Donc, il y a vraiment quelque chose sur le numérique ici qui est fait au service de l'organisation et de tous les services. Donc, on s'est dit, on va travailler l'expérience patient, mais pour nous, c'était vraiment inhérent à cette réflexion que de travailler sur les outils numériques. On ne pouvait pas l'un sans l'autre, c'est notre ADN, j'ai envie de dire, d'avoir du numérique ici au service de l'organisation. Et améliorer l'expérience patient, c'est améliorer ces outils, c'était les enrichir, c'était en rajouter d'autres. Et c'était en même temps, oui, développer des services peut-être qui ne sont pas numériques. Effectivement, une cafétéria, une borne à histoire courte, un lieu où les patients peuvent se ressourcer, un accueil plus agréable, mais toujours avec du numérique quand même.
À l'intérieur, avec des morceaux de numérique dedans.
Toujours du numérique partout. Si vous êtes à la cafette, vous avez des écrans avec de l'information qui circule, vous arrivez à l'accueil, vous avez un beeper pour que le moment où vous patientez soit plus agréable, on vous donne un beeper, vous allez prendre un café, on vous notifie quand c'est le moment de revenir parce que le lit est prêt, par exemple. Donc, à tous les niveaux, on a quand même du digital, et même dans la maison des usagers, et ça, on l'a travaillé avec les associations de patients, avec France Asso Santé, pour permettre à tout le monde d'accéder à ce numérique, un lieu où les gens peuvent accéder à du numérique.
On a parlé du portail, sur les autres outils, sur les autres démarches que vous avez entreprises pour intégrer du digital et améliorer l'expérience patient, quels ont été les résultats que vous avez observés ?
Alors, on en a eu pas mal parce qu'on suit beaucoup nos indicateurs. Je peux vous en donner quelques-uns qui sont directement liés à l'expérience patient. La première chose, nous, qu'on avait comme retour, c'est impossible de vous joindre, les standards sont embouteillés. Donc, ça fait partie des premières choses qu'on a travaillées. Et en termes d'indicateurs, par exemple, on avait 30% de perte d'appel avant. Maintenant, on est tombé à 5%. Donc on a vraiment des gens qui arrivent à nous joindre et en plus pour lesquels l'information est beaucoup plus fluide parce qu'on a de retravailler nos organisations. Un autre exemple, avant, il y avait des attentes aux admissions, des bureaux d'admission avec des tickets. On est complètement sorti de tout ça puisqu'on est plutôt en pré-admission et on n'a plus que 1% de nos patients qui passent aux admissions. Ils peuvent passer à l'accueil, donner un papier complémentaire, mais le dossier complet d'admission, c'est 1%, ce qui correspond à nos urgences. Donc finalement, sur l'ensemble de la chaîne, chaque fois, on a mesuré et en fait, on s'est rendu compte qu'on arrivait à améliorer nos résultats, mais on les suit de près en temps réel.
Ce chiffre de 1%, ça veut dire que seuls les patients admis aux urgences passent par l'étape d'admission, finalement.
Passent par l'étape d'admission complète, où ouais. Je me pose et je fais l'admission de A à Z. Puisque pour nous, tout est prêt en amont. Mais en fait, quand le patient arrive, quelquefois, il peut manquer un document. Mais il va juste fournir un document sur un dossier qui est déjà prêt, donc ça va très vite.
j'imagine l'expérience du patient qui arrive, qui donc s'enregistre sur une borne, sans doute, pour dire qu'il est là.
Il peut ou pas. C'est-à-dire, en fait, on a voulu aussi varier. C'est pareil, partir de l'expérience patient, c'est partir de ce qu'on voit ailleurs. C'est partir aussi des attentes et se dire qu'on a plusieurs possibilités. Donc, on a une borne d'accueil qu'on a travaillée, circulaire, centrale, pour dire qu'il n'y a pas une file dans un an. Voilà, on peut toujours accéder à quelqu'un. Les gens sortent de la banque pour accueillir les personnes. Donc, on a ce côté très humain qui nous tient énormément à cœur à Pasteur depuis l'origine de la clinique. Avec beaucoup de numérique, le patient arrive ou il se présente à la borne d'accueil ou il se présente à la borne numérique et là, bah, il va enregistrer son nom, il va voir si son dossier est complet et ensuite il va aller pouvoir rejoindre son service.
Oui, parce que certains patients sont naturellement moins enclins à s'approprier les outils numériques et donc à rentrer dans ce parcours pour lequel le numérique est quand même central. Comment est-ce que vous gérez ces situations-là?
Alors ça, c'est un travail vraiment qu'on a voulu faire parce que notamment le portail, on s'est dit, il ne faut pas laisser des gens de côté. Donc comment on fait pour répondre à tout le monde? C'est une réflexion qu'on a eue, nous en interne, qu'on a eue avec les représentants des usagers, avec les associations de patients, avec France Asso Santé, où on s'est dit, bon, comment on fait pour s'occuper de tout le monde? C'est là que l'humain intervient, c'est là que le centre de contact finalement vient en soutien des patients. Les patients, ou ils font toutes leurs démarches de façon autonome sur le portail, ou sinon, s'ils n'y arrivent pas, nous on va les appeler, on va aller les chercher, vous n'avez pas fait, qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut vous aider, comment on peut faire pour vous. Et là encore, on va multiplier les canaux. C'est-à-dire que si vraiment pour le patient, ce n'est pas possible de charger un document sur le portail parce qu'il n'est pas habitué, eh ben on va accepter qu'il nous l'envoie peut-être par SMS, dans une photo, peut-être par mail, et l'intégrer nous pour son compte. Donc là encore, on multiplie les possibilités pour être sûr d'avoir tout le monde avec nous. Et on est en soutien et on est capable de faire pour si vraiment ce n'est pas possible pour les personnes.
Je reviens aux outils. Donc on a parlé des beepers pour prévenir les patients qui arrivent que les chambres sont prêtes. On a parlé du portail patient pour s'enregistrer, du service de contact téléphonique. Est-ce que tous ces outils, c'est vous qui les développez en interne? Est-ce que vous, au contraire, vous faites appel à des prestataires? Comment ça se passe?
Alors il y a une culture, on se l'est dit, il y a une culture numérique très importante à Pasteur avec des gens qui sont des développeurs, avec beaucoup d'outils maison. On a développé, je ne sais pas, plus d'une centaine d'outils en interne parce que finalement, le numérique est partout dans toute notre organisation. Après, il y a des outils qu'on a acquis. Il y en a qu'on a développés nous-mêmes, voire qu'on a externalisés sous forme de spin-off, mais qu'on utilise maintenant. Et puis, il y en a qui sont des outils maison qu'on utilise et il y a des outils qu'on a acquis. Et notre travail, ben, c'est en fonction des besoins, de ce que le marché propose et de notre besoin spécifique, d'arbitrer ces différents choix et d'interopérer tous ces outils pour être certain finalement que dans tous les services de la clinique, il y a du numérique, il y a la bonne information et qu'elle est partagée.
Est-ce que ça pose quand même la question de la taille? On l'a dit au tout début de cet entretien, 65 000 patients, 70 000 patients par an. Donc, la clinique Pasteur est une clinique de très grande taille. Vous avez développé, parce que vous avez cette culture du numérique, développé vos outils en interne. Certains sont maintenant externalisés, enfin servent à d'autres. Est-ce que ça pose la question de la taille critique nécessaire pour pouvoir mettre en place ces usages, pour pouvoir injecter du digital dans l'expérience patient?
Alors ça, c'est une excellente question. Moi, je pense qu'évidemment, oui, pour avoir un service informatique en capacité de développer, d'interopérer, d'avoir suffisamment de compétences, il faut une taille critique, c'est certain. Pour autant, le fait d'avoir du numérique, plus que la taille, j'ai envie de dire, c'est l'engagement. C'est peut-être l'antériorité. C'est vrai que là, nous, on sort sur une clinique qui est engagée vraiment de façon forte dans le numérique depuis plus de 20 ans, qui est donc à progresser de façon volontariste sur ce sujet-là et qui a mis du numérique partout. Ici, quand on rentre à la clinique Pasteur, on utilise du numérique. C'est pas possible, quel que soit le métier. La dame qui fait le ménage, elle va badger pour signaler qu'elle a fait la chambre. Le brancardier, il va badger pour signaler qu'il a pris le patient, ça y est, qu'il est disponible. Et il va avoir un outil dans sa poche. Donc, tout le monde est numérique ici. Après, je pense que oui, c'est vraiment cette volonté-là de s'engager dans le numérique et d'y croire.
Alors, tous ces outils numériques au service de l'expérience patient, forcément, ils demandent des données, ils en créent aussi. Comment est-ce que ça circule en interne?
La volonté, là encore, en interopérant tous nos outils, c'est que l'information suive le patient en fonction des besoins. Quand un patient sort du bloc, tout de suite, le service de gestion des lits est au courant, il sait que le patient est en salle de réveil. Au moment où le patient peut sortir, il le sait, il va lui trouver un lit. Et tout ça, en fait, cette information-là, c'est un exemple, mais cette information-là, elle va suivre partout. On va savoir où est le patient, quel est son besoin, qui il est. Et du fait que c'est interopéré, on va pouvoir créer aussi des interfaces qui vont nous permettre de récupérer les informations dans les différents outils pour pouvoir avoir une vue en fonction des différents outils, mais une vue synthétique qui correspond aux besoins d'un service. Par exemple, le service salon de sortie a une vue qui fait appel à plusieurs outils pour savoir où en est le patient, est-ce qu'il est prêt, quand est-ce qu'il va sortir, est-ce que son dossier a été fait par les secrétaires médicales, etc. Donc c'est vraiment cette culture de la circulation d'informations et de, là encore, de la réponse aux besoins en temps réel.
Jusqu'à la facturation.
Jusqu'à la facturation, jusqu'en ambulancier en externe, jusqu'au service relation à patient pour après, jusqu'au PREMS-PROMS qu'on est en train de développer, qui sont les moyens de mesurer les résultats des soins et l'expérience patient avec des questionnaires une fois que le patient est sorti, ou les questionnaires post-hospitalisation. Donc c'est vraiment de avant, dès la consultation chez le praticien, où là, les secrétaires médicales sont équipées avec un outil. En fait, nos médecins ont tous le même outil, le même logiciel. Donc ça communique aussi avec la clinique. Si un patient doit rentrer, la secrétaire médicale va l'indiquer tout de suite, la date, à quel endroit. Ça va arriver au service gestion des lits, etc. Et pareil au portail, ça va permettre de préparer le séjour. Donc c'est vraiment tout le long, en fait, tout est communicant, mais juste la bonne information au bon moment. On ne partage pas tout, ce n'est pas la peine. On partage ce dont on a besoin à chaque instant avec les seules personnes qui en ont besoin. C'est tout ça le challenge, en fait.
Mais ça veut dire aussi que ce qui part d'un besoin ou d'une envie d'améliorer l'expérience patient, en commençant par l'accueil, la préadmission, va jusqu'à au bénéfice de d'autres services au sein de la clinique.
Déjà, on parle de symétrie des attentions, hein, expérience patient, expérience collaborateur, ça va ensemble. Ce qu'on a vu, c'est que depuis longtemps, de toute façon, il y avait un intérêt pour les deux, même si ça ne s'appelait pas expérience patient, et que les outils ont toujours été au service des deux, mais des deux en parallèle. Et finalement, améliorer l'expérience patient, c'est aussi continuer d'optimiser ces outils, continuer d'optimiser la circulation d'informations dans les différents services. En fait, on optimise, on y met un mot qui s'appelle expérience patient, mais on part de ça pour s'améliorer en interne au service du patient, mais aussi au service des collaborateurs et de l'organisation de l'établissement de santé. C'est ça que je trouve extrêmement puissant finalement, c'est comment à partir de ça on peut impacter une organisation.
Pour que tout le monde y gagne, finalement.
Le but, c'est que tout le monde y gagne et que tout le monde sorte gagnant-gagnant. On ne peut pas travailler sur l'expérience patient si les collaborateurs ne sont pas dans des conditions de travail qui vont bien, s'ils n'ont pas les informations dont ils ont besoin. On va perdre. Donc finalement, en améliorant le fait que pour le patient, ça va plus vite, il attend moins, il a le bon papier, mais on améliore aussi l'expérience collaborateur puisqu'on doit lui fournir l'information dont il a besoin en temps réel pour qu'il ne court pas derrière. Donc finalement, on est sur du gagnant-gagnant et je crois que l'un ne va vraiment pas sans l'autre.
Et le patient, lui, quelle vue il a sur les données qu'il vous accorde? Comment est-ce que ça se raccroche avec les données que, par ailleurs, il garde dans mon espace santé? Est-ce que tout ça communique?
Alors, tout ça communique et nous, on a besoin du patient là-dedans. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qui est fait, c'est au service du patient et c'est avec lui et c'est avec son accord. Quand on prépare son admission, qu'on l'invite à compléter mon espace santé, parce que nous, on croit beaucoup à ça et on pense que la coordination du parcours de santé est un des éléments de l'expérience patient, un élément fort. Si quand j'arrive au domicile, après être passé dans un établissement de santé, je n'ai pas les informations, mon médecin n'a pas les informations, l'expérience patient, elle est de fait pas bonne. Ce n'est pas l'expérience directe, mais quand même, c'est une expérience liée aux soins. Donc l'idée, c'est d'associer le patient. Donc nous, on l'incite à compléter mon espace santé. On l'aide s'il faut. On l'oriente vers les services dédiés à ça. On va l'inviter à y mettre de l'information. On va aller récupérer, nous, de l'information, comme on l'a dit tout à l'heure, pour nourrir notre dossier médical au service du patient. On va qualifier l'identifiant national de santé. Quel est l'intérêt de faire ça? Ça peut être vu comme une démarche administrative, mais en réalité, l'objectif, c'est derrière, quand le patient sort, de pouvoir envoyer dans mon espace santé, donc dans son espace santé, des éléments du séjour, les éléments de synthèse du séjour, pour qu'il y retrouve tous les éléments. Et ça, toute sa vie. Mais pour ça, il faut qu'on ait qualifié l'identifiant national de santé. Donc on a une organisation qui est aussi au service, finalement, de l'expérience patient au travers de la coordination du parcours en dehors de l'établissement, puisque mon espace santé, de notre point de vue, est vraiment l'outil de coordination du parcours de santé médical, enfin du parcours médical.
Oui, donc vous prenez votre mission à cœur, ça j'en ai aucun doute, mais l'expérience patient ne s'arrête pas au mur de la clinique Pasteur.
Exactement, c'est-à-dire qu'en fait on intervient, l'expérience patient elle est dans un écosystème. On a parlé tout à l'heure du patient, donc avant, pendant, après. On a parlé un peu de l'écosystème au sein de l'établissement. On a parlé un peu de l'écosystème extérieur, par exemple avec les ambulanciers, avec lesquels on va aussi communiquer avec des outils digitaux qu'on a développé. Mais après, on a aussi la volonté de, évidemment, s'interfacer avec les professionnels de premier recours, les professionnels du patient, avec tout ce qui est autour. Donc, on va s'intégrer dans une politique nationale, une politique de santé, que j'estime être une politique de santé publique, même si ce n'est pas de la prévention, c'est vraiment de la coordination. Et on va tenir compte de cet écosystème pour, avec nos outils, essayer de rentrer en résonance et de soutenir cette politique. Et donc, mon espace santé, l'identifiant national de santé, pour nous, ce sont des éléments forts qui vont améliorer la qualité des soins.
Merci, Dr. Auron.
Merci à vous.
La discussion continue pendant l'Université de la e-santé de Castres-Mazamet, puisque le 28 juin, Céline Auron participera à une table ronde sur le thème du numérique au service de l'expérience patient avec France Asso Santé. D'ici là, retrouvez tous les épisodes du podcast de l'Université de la e-santé sur les plateformes d'écoute de podcast, avec les invités qui ont participé aux précédentes éditions de l'événement, mais aussi les invités du prochain Summer Camp qui se tiendra les 27 et 28 juin 2023 à Castres. Et pour retrouver la programmation de cette Université de la e-santé, rendez-vous sur son site internet université-isanté.com. À bientôt.